À l'occasion du festival Nuit de Flou et de l'exposition Diasporama organisée par l'association Zebra 3 pour son 30e anniversaire, Duradio propose une émission séquencée en plusieurs plateaux autour des dynamiques et stratégies collectives initiées par les artistes. Victoire Lebars reçoit Sandra Patron, directrice du CAPC, Cédric Faux, commissaire d'exposition en chef au CAPC, Déborah Baumann, artiste, le duo d'artistes composé d'Amaury Dorel et Victor Delestre, et Maroussia Rebec, styliste, artiste et fondatrice de la marque Andrea Cruz.
Bonjour Sandra, Cédric, Amaury, Victor et Maroussia. Comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bien.
On va super bien.
Bon, on a choisi un peu d'orienter, la discussion sur l'exposition Le Club du Poisson Lune qui a eu lieu entre 2021 et 2022 et dont tu as été le commissaire d'exposition, Cédric, et dont la scénographie a été réalisée par vous, Déborah Baumann. Le Club du Poisson Lune, avant d'être une exposition, était un café-théâtre qu'avait ouvert Jean-Louis Froment en 1967. C'est lui qui fondera quelques années plus tard, en 1973, le CAPC. D'abord, Cédric, Sandra, quel a été le point de départ de cette exposition, car il n'y a pas ou très peu de traces d'archives du café qui portait ce nom.
Alors, je vais laisser Cédric en parler. En tout cas, ce qui, moi, m'a semblé intéressant et ce qui m'a séduit dans la démarche de Cédric, c'est la manière dont il s'est interrogé sur comment arriver quelque part, finalement. Et que on est dans un contexte qui est bien spécifique, est une histoire, et comment on peut la convoquer. Et je crois que ça a été le point de départ, à la fois de plonger dans les archives, mais surtout de savoir comment les convoquer avec une nouvelle génération.
Il y avait effectivement cette question de comment commencer, comment arriver au CAPC, et avec déjà en tête sans doute l'idée des 50 ans qui arrivait, puisque on était en 2021 et là on est en 2023, et en fait effectivement les 50 ans du CAPC. Et donc il y avait en général, quand j'approche des projets, j'essaie de les ancrer dans les endroits où je suis, et donc j'avais envie que les deux premiers projets qui allaient un peu lancer les choses que j'allais proposer au CAPC parlent du lieu où on se trouvait. Et de différentes manières. En tout cas, le Club du Poisson Lune, effectivement, c'était cette idée de faire référence à l'histoire institutionnelle de ce lieu. Et donc, en recherchant le proto-CAPC, comme j'ai commencé à l'appeler, il y avait effectivement cette histoire de la Galerie du Fleuve, ou le sous-sol de la Galerie du Fleuve. Et avant cela, le café-théâtre du Poisson Lune, mais qui a été une aventure assez courte, en tout cas pour Jean-Louis Froment, mais effectivement pour lesquels il y avait très très peu de traces, donc qui laissait en même temps, paradoxalement, la place à l'imaginaire. Et en même temps, le fait de revenir sur l'histoire du Poisson Lune, ça permettait de dire que au fondement du CAPC, il y avait aussi quelque chose qui se rapprochait plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui les Project Space, en tout cas des initiatives indépendantes qui n'étaient pas forcément subventionnées, qui n'avaient pas de soutien institutionnel. Et l'idée, c'était de revenir à cette énergie-là. Et donc, très rapidement, les invitations qui se sont faites à Déborah Baumann, mais aussi à beaucoup d'autres artistes, cherchaient à venir finalement chercher cette énergie de l'espace indépendant. C'était vraiment les origines du projet.
Amaury et Victor, vous intervenez, Déborah Baumann, en tant que scénographe, artiste, sur cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et décrire un petit peu le travail que vous avez réalisé pour cette exposition ? Et le décrire visuellement, c'est important pour les auditeurs aussi qui sont en train de nous écouter.
Eh ben, on a voulu concrétiser un peu ce dont vient de parler Cédric, c'est-à-dire... Le Poisson Lune déjà, et ainsi que l'histoire du CAPC. Et donc on a voulu un peu concrétiser donc ces différents éléments, quoi, dans quelque chose d'assez onirique, quelque chose d'assez nocturne, un peu forestier même, quelque chose qui puisse être assez ouvert dans la mise en forme pour accueillir voilà, les autres œuvres, puisqu'il y avait vraiment cette idée de scénographie, de créer un peu un écrin pour les autres artistes. Donc on a, avec des rideaux bleus, une moquette de la même couleur, du mobilier en bois avec garnissage noir et blanc. On voulait avoir un peu quelque chose qui amène à cette idée de club, qui parle aussi de Bordeaux avec cette vieille pierre, enfin le CAPC, tout ce décorum, disons, qui est déjà là, et amener ouais, quelque chose du club, quoi. Et en pensant un peu à cette idée un peu d'extérieur-intérieur, quelque chose d'un peu domestique, quelque chose d'un peu urbain aussi, quelque part, avec ses éclairages, ses grosses boules lumineuses, en fait, qui parlent un petit peu d'un dehors, quoi.
En effet, l'idée, en réinterprétant un petit peu l'idée du club du Poisson Lune, on est vraiment reparti quelque part du titre, en se disant, bah, nous, on va penser cet espace déjà à partir de ça. Donc l'idée d'un club vient aussi par le fait qu'on avait créé de nombreuses assises, donc les éléments qu'on a pensés étaient autant pour accueillir des œuvres qu'accueillir les visiteurs. Et donc c'était aussi un espace où on pouvait s'asseoir, se poser.
Je reviens sur la question du collectif. Comment les discussions se sont articulées au départ sur cette exposition entre Cédric, Sandra, les artistes et les scénographes?
Alors il faut savoir que ça a commencé avant que j'arrive, officiellement. Et donc il y avait ce moment où je venais à Bordeaux pour mettre le pied à l'étrier, je dirais. Et du coup, je profitais aussi de ces différents moments, de ces différentes villes, pour aller à la rencontre des différents espaces qu'il y avait à Bordeaux. Sans doute recommandé par Sandra, mais aussi par d'autres personnes ici. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, les choses se sont oui, il y a comme une sorte de ricochet. En fait, ce qui m'avait intéressé aussi vis-à-vis de l'invitation à Deborah Bowman, c'était qu'ils avaient aussi étudié à Bordeaux. C'était un des éléments cruciaux.
Au Beaux-Arts de Bordeaux.
Oui, au Beaux-Arts de Bordeaux, voilà. Donc, il y avait aussi ce lien, forcément, vis-à-vis qu'ils avaient avec le CAPC. Et ça m'intéressait de les faire revenir. Et ensuite, avec les autres artistes, ça s'est fait... Par la délimitation des différents espaces qu'il y avait dans l'exposition, il y avait du coup à chaque fois l'idée de... Il y avait un vestibule, il y avait le salon avec la bibliothèque, il y avait le fumoir la scène. C'était les différents espaces de l'exposition. Et cette typologie, on l'a dessinée aussi ensemble. Ça fait par accumulation, il y avait beaucoup d'artistes. Beaucoup d'éléments différents.
Et donc comment t'as rassemblé justement... Enfin, vous avez rassemblé ces artistes?
Alors comment il a rassemblé les artistes, hein, parce que ça c'est une chose qui est importante pour moi, c'est qu'il y a des voix qui s'expriment au CAPC et que ces voix aient leur autorité pleine et entière. Donc ça c'est l'histoire de Cédric, comme c'est l'histoire de Alice Cavander en ce moment qui fait une rétrospective de Jean Sabrier. Donc c'est le fait qu'il y ait plusieurs, je dirais, voix curatoriales au-delà des voix des artistes, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Et comme je disais, il y avait cet intérêt pour des initiatives d'artistes qui travaillaient dans des espaces indépendants. Donc pas mal de pièces qui ont été montrées avaient été produites pour des project space. Donc par exemple, il y avait ou en tout cas des espaces non institutionnels. Par exemple, Maxime Bichon, qui avait une des pièces qui était montrée en exposition, avait été produite à Trégnac Projet, dans le Limousin. Une des pièces lumineuses, deux des pièces lumineuses qui étaient présentes dans l'exposition, avaient été produites pour Bagnolet, en région parisienne. La pièce de Ludovic et Angélique, les pièces avaient été produites pendant une résidence à la synagogue de Dème. Alors, c'est pas un espace non institutionnel, mais c'est quand même à la marge aussi. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont commencé à s'accumuler et à faire sens dans la construction de cet imaginaire autour du club du Poisson Lune, en sachant que c'est aussi un espace qui a été activé par beaucoup de performances, des clubs de lecture. Il y avait aussi des études, en tout cas des artistes que j'avais vus d'ailleurs à Zebra 3, qui passaient leur diplôme, qui montraient leurs œuvres dans le cadre de l'exposition de diplôme. Hugo Brillet notamment. Mais ça a été très organique en fait, parce que j'ai eu un temps assez limité pour faire ce projet. Ça s'est construit en quelques mois. Et donc il y avait finalement, mais finalement dans l'énergie même de la construction de ce projet, quelque chose qui s'apparentait à ce qu'on peut trouver justement dans les espaces indépendants, en sachant que c'est quelque chose que moi j'ai connu aussi, notamment à Londres. Donc du coup, ça c'était intéressant finalement de pouvoir travailler dans ces modalités-là au CAPC.
Et Amaury et Victor, vous avez été aussi réalisateurs de la scénographie ici pour l'exposition Diasporama à Zebra 3 pour le 30e anniversaire. Est-ce qu'il y a un processus, comment je pourrais dire, pas de production, mais de penser à chaque fois des scénographies pour et avec du collectif?
Ben oui, en fait, nous, l'ambition première, qui est la même d'ailleurs dans l'idée du Club du Poisson Lune, c'est que l'ensemble fasse œuvre. C'est un peu ça aussi notre fonction scénographique, c'est que c'est autant une accumulation d'œuvres qu'une grande œuvre. En tout cas, l'idéal, c'est si on peut ressentir l'exposition comme ça. Et tout notre travail aussi qu'on a pensé dans notre espace à Bruxelles, parce qu'on avait un espace d'exposition, c'était toujours ça, de collaborer avec les artistes, non pas pour mettre des œuvres ensemble, mais pour créer vraiment quelque chose ensemble, où en fait c'est un vrai système de collaboration. Donc ça, on le retrouve ici. Et ce qui est un peu différent ici, c'est que c'est pas une scénographie qui est conçue à partir d'œuvres, comme on a fait lors du Club du Poisson Lune, où en fait on récupère tout et ça reste dans notre corpus d'œuvres. Ici, c'est vraiment une vraie scénographie qui a une fonction du coup éphémère, une durée de vie éphémère. Et ce qui nous intéressait aussi ici, du coup, c'était qu'il y a un emprunt qui a été possible à l'Opéra de Bordeaux. On a emprunté certains éléments de décor. Et donc, il y a comme ça un peu une discussion sur ce que c'est la scénographie, le décor. Parce que voilà, donc l'Opéra a des nombreux éléments de décor qui restent dans leur stock et ne sont plus forcément utilisés. Donc on a essayé de penser quelque chose qui vienne incorporer des éléments qui sont un petit peu entreposés comme ça.
Tu veux rajouter quelque chose?
Et oui, non, mais par rapport à ta question, en fait, dans la manière dont on élabore une scénographie, quand il y a une invitation comme celle de Cédric ou ici avec Zebra, c'est qu'il y a en effet des sortes de lignes directrices, quoi, des idées, des concepts ou vraiment des choses plus pragmatiques. Là, donc, pour Zebra, il y avait vraiment cette idée donc, de cet anniversaire, l'invitation de cette collectif, et l'envie aussi de vendre, qui est vraiment cette idée de magasin, quoi, qui fait vraiment écho à Zebra by Self et donc à ce catalogue de vente par correspondance d'œuvres d'art. Donc, c'était en effet, voilà, c'est souvent dans des discussions avec le commissaire d'exposition ou le collectif qui nous invite, voilà, d'être vraiment, de réagir par rapport à une problématique, quoi. Il y a un truc très proche finalement du design aussi, de s'adapter à certains nombres de contraintes, mais aussi à des directions voilà, conceptuelles, quoi. Et c'est vrai que pour ici, il y avait voilà, cette envie de créer une forme de une structure qui puisse permettre de faire corps à tout, à la variété des 80 artistes présents. C'est quand même quelque chose. Et qui soit donc assez présent, qui permette à tout ça de faire corps et en même temps d'être assez neutre. C'est pour ça qu'on a choisi voilà, ces sortes de structures crépies, un peu neutres dans ce ton gris comme ça. Et en même temps cette moquette aussi qui amène dans un truc un peu quelque part dans une sorte de foire automobile, et en même temps ces architectures un peu entre ruines et sculpture de rond-point. Enfin, il y a un truc comme ça qui emmène dans différentes directions. Qui nous intéressait en fait.
C'était un peu entre l'idée du village et du grand magasin, quoi. Essayer de rester.
On va faire une petite pause, on va écouter l'extrait de Bande à part de Godard que Sandra Patron m'a envoyé. Et c'est la scène du Louvre. Voilà, et puis on en discutera un petit peu après.
Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco.
Alors Sandra, tu peux nous raconter ?
Oui, pour moi c'était un peu un clin d'œil, à la fois un clin d'œil sur le fait que je dirige une institution importante en France, mais c'était aussi un clin d'œil par rapport à d'où je viens. Puisque moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans un lieu assez similaire à Zebra 3. J'ai l'impression quand j'ai parcouru l'installation hier que c'était un peu mon histoire aussi qu'on racontait, puisque j'ai commencé dans la friche de la Belle de Mai à Marseille, à Triangle France, et que du coup cette question du collectif, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on se demande finalement, normalement l'art ça devrait par définition être une histoire collective. Donc finalement si on la pose, si on veut la revendiquer, c'est que cette question n'est pas si simple et que qu'elle répond en fait à une nécessité. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est évidemment son insolence, c'est-à-dire comment on arrive à exister, comment on arrive à s'approprier des lieux qui font autorité, qui peuvent devenir autoritaires de ce fait-là, et que pour moi, tout le mouvement, je dirais, alternatif en France, c'est aussi une manière de répondre à une précarité dans un système qui reste un système très libéral et capitalistique, et que c'est à ça que répond, dans les années 80-90, l'émergence de collectifs. Mais que c'est aussi quelque chose de très insolent, de très joyeux. J'avais envie de vous amener aussi un texte, mais je ne l'ai pas retrouvé dans la bibliothèque, je suis désolée, de Michel de Certeau, qui est un sociologue et qui a écrit cet ouvrage que je trouve absolument génial, L'invention du quotidien, chapitre 1, Les arts de faire, où il développe l'idée que finalement nous sommes enserrés dans des structures autoritaires et que nous trouvons tous des ruses et des tactiques pour nous approprier le réel, pour détourner les structures et pour arriver à se les approprier. Pour moi, des lieux comme Zebra, des lieux dans Triangle, dans lesquels moi je me suis vraiment développée au contact permanent des artistes, ils ont aussi cette fonction-là.
Maroussia Remek, tu es styliste, artiste et tu représentes entre autres la marque Andrea Cruz, pionnière de l'upcycling, qui est au départ un collectif d'artistes aussi fondé en début des années 2000. Tu as aussi côtoyé les murs du CAPC quand tu étais encore étudiante, donc lors d'un stage que tu devais réaliser, que tu ne voulais pas réaliser de la manière dont on te l'avait proposé. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration avec le CAPC et le Secours Populaire, du coup ? Je précise que c'est une démarche que tu as conservée, en fait, dès le premier défilé. Tu avais imposé, d'une certaine manière, un processus.
J'ai créé un processus que j'ai répété, finalement, toujours, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres entités au-delà du système propre de l'art, donc par exemple le Secours Populaire, de les intégrer dans ma pratique. Donc c'est vrai que ce premier défilé c'était dans le cadre d'un stage et un stage en entreprise. J'ai créé mon entreprise de mode au travers du vêtement des poubelles. C'était une proposition critique de la consommation de fringues. Je suis allée chercher les gens de ce que j'appelle les gens de la rue, un mix entre mes amis et de casting sauvage. Et le Secours Populaire m'ont filé des vêtements, on a fait des looks et il se trouve qu'à l'époque Janie Lega, je ne sais pas ce qu'elle occupait comme poste au CAPC, mais qui était une fan de mode, a entendu parler de mon projet et m'a invité à le faire au musée. Waouh! Trop bien. Donc, effectivement, ça a posé les bases d'une pratique collective. Et moi, ce que je préfère faire dans la vie, c'est aussi le casting, aller chercher des gens pour les entraîner dans mon histoire. Donc, où c'est clairement appliqué au défilé. Je te caste pour que tu viennes défiler, mais aussi aller chercher des gens pour tout. Parce que moi, si on revient au collectif, toute seule, je ne sais pas faire grand-chose. Donc voilà.
Tu m'as envoyé un son du défilé donc qui a été réalisé par Christophe Chassol et on va en écouter un extrait et tu me diras après pourquoi tu parlais de cette histoire de gratification d'avoir répété une collaboration aussi.
Les chefs-d'œuvre sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. Un styliste, c'est quelqu'un qui crée dans sa langue une langue étrangère. C'est vrai de Céline, c'est vrai de Peggy, c'est vrai de... Bon, c'est à ça qu'on reconnaît un styliste. Bon, c'est à ça qu'on reconnaît un styliste. Bon, c'est à ça qu'on reconnaît un styliste.
99 vêtements, 99 vêtements, 99 vêtements. Célébrer le vêtement populaire et sa circulation. Célébrer le vêtement populaire et sa circulation. Célébrer le vêtement populaire et sa circulation. Pas seulement une pièce dans son écrin marchand. Dans son écrin marchand. Dans son écrin marchand. La surproduction. La surproduction. La surproduction. Et la surconsommation de vêtements. Et la surconsommation de vêtements. Et la surconsommation de vêtements. Synonyme de pollution, 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 pollution et de sous-traitance. La vie classique d'un vêtement, c'est partir d'une heure de gloire à sa sortie pour tomber dans la désuétude lorsqu'il est passé de mode. Lorsqu'il est passé de mode. Lorsqu'il est passé de mode.
Donc c'était pour le défilé Nuit Blanche, curaté par Gaël Chabreau. On vient d'entendre un extrait avec la voix de Deleuze. Charbot, excuse-moi.
Sorry, Charbot.
Ouais, désolée. Donc, on a entendu en première partie la voix de Deleuze et puis après la tienne. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration avec Christophe Chassol et de cette répétition voilà, de collaboration avec Gaël Charbot?
Ouais, mais alors la collab avec Chassol, bah oui, là je suis hyper fière qu'on ait mis d'abord Deleuze et après ma voix sur un texte de Gaël qui est le texte curatorial du défilé et que donc j'ai demandé à Chassol de mixer. Et c'est vrai que je l'avais rencontré comme ça. Que j'étais fan et qu'il se trouvait que j'avais une musique de défilé à faire, donc voilà, on a monté ce projet comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est la répétition de la collaboration, parce que c'est vrai que Gaël m'a invité une première fois à faire un défilé qui est en fait presque la redite de ce premier défilé que j'ai fait au CAPC, genre 20 ans après. Et là, je vais en refaire un la semaine prochaine, pour les 50 ans. Et du coup, ça c'est... Ben moi, je suis plutôt quelqu'un de fidèle en général et en amitié. Et voilà, c'est quelque chose d'important que la collab, en tout cas marketing, c'est souvent un one-shot parce qu'on a envie de faire quelque chose qui fait parler. Et la collab, je dirais, peut-être plus belle, amicale, se répète. Et là, je voudrais faire un petit big up à Déborah Baumann, qui a donc fait un jour entièrement le shop Andrea Cruz comme un écrin qui était magnifique.
Rue de Turenne.
Rue de Turenne, ouais. Et donc, ils ont fait bon, plein de choses, mais notamment des portants que je trouvais géniaux et que je me suis ensuite permis de reproduire dans d'autres endroits, à Piazza le Radieux, où là, on en a fait l'année dernière, on l'a reproduit et il est encore là à Zebra 3. Donc ça, c'est une collab qui se répète, qui dure, qui est fluide. Et voilà, je trouve qu'en fait, c'est aussi ça qui est beau, c'est qu'on pose les bases de quelque chose et qu'on crée quelque chose qui grandit et qui est libre.
Tous les trois, vous avez fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Voilà. Est-ce que... non, mais je reviens à la question du bled un peu, enfin de la cambrousse dont parlaient Michel Affès-Béraud et Daniel Colomine tout à l'heure. Est-ce que finalement, les équipes se montent aussi comme ça à travers les territoires ou la géographie ou les écoles?
Ouais, nous on était à Bruxelles déjà quand tu nous as invités.
Ouais, moi je vous préfère belge que bordelais.
On est belge de cœur maintenant en vrai. Ouais.
Contrairement à Cédric.
Ouais.
Non, ici
nous,
on a découvert
tardivement. Que...
Nous on sait qu'on venait de Bordeaux, ouais. Oui, c'était vraiment un hasard.
On a découvert.
On avait fait le grand atelier au Beaux-Arts quand moi j'étais en première année.
Ah.
Le recyclage de vieux ordinateurs là.
Ouais,
c'est très chouette.
Non mais là il y a un contexte particulier, ouais. C'est que là c'est vraiment Bordeaux, on fête donc Zebra 3, donc à la fois il y a des collectifs qui viennent de partout, mais moi je retrouve des amis locaux, mais toi aussi non Victoire, tu viens de Bordeaux,
ouais,
j'ai entendu.
Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux, ouais.
Mais tout le monde a fait les Beaux-Arts.
Non, je ne l'ai pas dit parce que moi je ne me présente pas.
Donc là c'est très particulier à Bordeaux et c'est super, ça fait plaisir qu'on soit tous là. Mais globalement, je pense que moi je préfère sortir de mon territoire natal et aller voir un peu plus loin. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot sur l'événement du week-end prochain et,
Mais bien sûr, ne serait-ce qu'en commençant par dire venez tous. On y a mis du cœur, on y a mis de l'enthousiasme.
Et sur cette question du collectif, justement, comment vous avez rassemblé les artistes qui participent cet anniversaire ?
Ça a lieu le 23-24 septembre, donc week-end prochain. Comment on a pensé les choses ?
On n'emmenait pas large au début. Hein.
Ça a été compliqué.
Franchement, on n'emmenait pas large. C'est passé par des tas d'étapes. De doutes, mais je crois qu'au final, on s'est dit qu'on allait faire un événement qui nous ressemble, en tout cas qui ressemble à ce qu'on essaye de faire au CAPC depuis nos deux arrivées, qui est un événement qui à la fois convoque cette histoire, puisque c'est évidemment le sujet, mais qui le convoque à l'aune des écritures très contemporaines. Donc par exemple, on n'a pas fait le choix d'inviter spécialement des artistes de l'époque à venir proposer quelque chose. On a plutôt fait le choix d'inviter des jeunes artistes à porter un regard. Hein. Je donne un exemple de Laetitia Badeau-Haussmann qui va se saisir du mobilier de Putman. Alors, je ne veux pas tout dévoiler, mais à partir en fait, des lumières de Putman, elle va faire une sorte de chorégraphie lumineuse où Jessie Darling qui va se saisir là de l'histoire coloniale du lieu. Donc ça a été une première décision qu'on a prise, hein, de le faire à l'aune de la création très contemporaine. Et la deuxième décision a été d'inviter par contre un ensemble de personnalités qui ont fait l'histoire du CAPC, donc directeur, directrice, commissaire en chef. Et quand on a envoyé nos invitations... Je dois vous avouer qu'on n'avait aucune idée, vu que c'est quand même une histoire mouvementée, qu'il y a quand même plein de gens qui sont partis pas hyper contents de cette institution. Et on a été tellement heureux que la très très grande majorité des gens ait répondu oui. Et ça va être, je dirais, visible par une sorte de marathon de la parole, qui fait que voilà, des grandes personnalités qui ont compté dans l'histoire de ce lieu vont venir s'exprimer dans un flot de paroles pendant deux jours. Évidemment, on va faire la fête. Venez nombreux.
Oui, venez nombreux.
Ok, merci Sandra Patron, Cérine Foc, Maroussia, Rebecque et Amaury Dorel et Victor Delez de Déborah Baumann. Les entretiens seront bientôt disponibles à l'écoute sur le site de la Radio du. Merci pour votre écoute. On se quitte sur la bande sonore du défilé Andrea Cruz, Un été au Havre 2023. À bientôt sur du Radio. Ha 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 ha!